Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. J'espère que vous avez bien passé votre week-end. Nous avons commencé encore cette journée alors du travail, cette semaine de travail, j'allais dire. Dernière ligne droite alors pour les municipales du 17 juillet prochain. La campagne électorale prend fin ce mardi à minuit. Les forces de l'ordre et de sécurité votent par anticipation ce lundi. Les candidats s'activent pour conquérir le cœur des électeurs sur le terrain. Chacun s'évertue pour recevoir la voix des électeurs et se serait parti encore pour 6 ans de gouvernance locale. Quel bilan pour ceux qui viennent d'achever leur premier mandat? Les attentes sont-elles comblées? Sinon, quels sont les autres défis à relever pour les prochains 6 ans dans la gouvernance locale au Togo? Nous aborderons le sujet. Je poserai ces questions d'ailleurs à mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous allons aborder d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 14 juillet 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Vous le savez très bien, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Atakpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtsougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site également internet www.canalfm.com. Et aussi vous pouvez nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est sur la base alors des journaux parus, bien sûr, aujourd'hui. Et nous allons en parler dans cette émission Club de la Presse, des confrères journalistes déjà en studio avec moi, Jacques Dzakouti. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Salut particulier à tous ceux qui sont actuellement de nous écouter dans leur bureau, certains qui sont au bord des véhicules, des taxis, peut-être certains également qui sont sur les lits des hôpitaux. Je voudrais souhaiter prompte guérison à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en train de nous écouter, et tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie et qui pensent que il n'y a pas d'issue, que l'issue c'est de se suicider. Je voulais dire à ces personnes ce matin que tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont vivants, il y a de l'espoir pour ceux qui s'attachent également, s'accrochent à Dieu et demandent effectivement cette intervention divine dans leur vie. Donc je voudrais souhaiter beaucoup de courage aux uns aux autres. Je sais qu'actuellement, quand vous allez au niveau des hôpitaux, les cliniques, la plus grande maladie des Togolais aujourd'hui, c'est le stress. Donc, demandez, plaise à Dieu, d'aider les Togolais que nous sommes à pouvoir diminuer un peu ce stress. Aujourd'hui, le stress fait que vous allez voir Pascal, un enfant de 20 ans, on dit qu'il fait il a fait un AVC et tout. Donc, plaise à Dieu que ces situations que nous sommes en train de traverser, que Dieu visite chacun et chacune d'entre nous pour le bonheur effectivement de la vie que nous sommes en train comme de vivre ici, parce que nous sommes des passagers et certains sont déjà partis. Je voudrais une fois encore présenter mes condoléances les plus attristées à la famille Diobo, notre confrère Sam Diobo, qu'on a inhumé le samedi passé, dont les cérémonies du troisième jour ont eu lieu hier, cérémonie à laquelle nous avons assisté. C'était vraiment émouvant. Et en plus de ça, nous avons également appris le décès de notre confrère Tchotchoko Bonfo, de Radio Lomé, pour ceux qui l'ont connu dans le temps, présenter également les condoléances les plus attristées à tous ces confrères qui sont également partis et demander à nous les vivants, les enfants qu'ils ont laissés comme progéniture, que nous puissions effectivement prendre soin de ces enfants, accompagner ces enfants pour que ces enfants puissent également s'épanouir, grandir et devenir quelque chose demain.
Merci beaucoup Jacques Djakouti pour vos souhaits également, les mots de condoléances présentés aux familles et pleurer. Oui, nous le disions même d'ailleurs le vendredi dernier que Sam Dzobo fut un grand ami et aussi un ami de la presse, il allait dire. Ouais. Et il participe également à cette émission. Nous étions ensemble à l'inhumation le samedi dernier. Et là, nous ne pouvons quand même que souhaiter paix à son âme. N'est-ce pas, Gosson Ketomania? Bonjour.
Bonjour, Pascal. Je joins ma voix à la tienne et à celle de Jacques pour me recueillir sur la dépouille de notre confrère et avoir une pensée pieuse pour le second Tchotchoko qui vient de rejoindre les cieux. C'est écrit. Seulement, personne ne sait quand et comment. Et donc, quand ça arrive, quel que soit l'âge que la personne a avant de transiter, ça, c'est toujours de la peine que ça génère à la famille. Et donc, que la terre lui soit légère. Heureusement que pour moi, quand bien même ma barbe est blanche, mes parents sont toujours vivants.
Et c'est une grâce.
Franchement, c'est une grâce. Hier, on a tenu une réunion de famille et je me suis rendu compte que rien n'est plus sacré que l'ambiance au sein d'une famille.
Je suis parfaitement d'accord. Voilà.
Je saisis cette occasion pour adresser un coucou fraternel et amical au responsable du collège Kouvahé. Je viens même de là. J'ai été agréablement surpris que pour certains de leurs élèves, ils appellent ils invitent les parents pour échanger avec eux afin que la série que l'enfant va prendre soit en accord, que ce soit un compromis et non que l'enfant soit obligé d'embrasser une série qu'il ne voudrait pas faire au fond. Ce matin, j'ai été très surpris et si doit en être ainsi dans tous les établissements scolaires. Je pense que c'est une manière d'attirer l'attention des parents sur l'avenir de leur progéniture. Et ça, c'est franchement, j'ai apprécié. Je tenais à leur envoyer un coucou gentil.
Merci pour avoir accepté notre invitation, Gosson Ketomanian. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour à mes aînés en studio.
Est-ce que vous allez bien?
Relativement. Ça ne tenait qu'à moi-même et à ma situation, d'accord. Mais avoir à passer un week-end où vous perdez deux de vos aînés, l'un duquel vous êtes un peu relativement proche et l'autre que vous connaissez de loin, avoir à passer un week-end avec ces deux nouvelles-là qui frappent la corporation, c'est un peu compliqué. Et c'est un peu affligeant aussi, surtout par rapport à la nouvelle de Sam. Par exemple, on a eu à partager quelques expériences ensemble. Je fais partie des rares aînés qui, les autres me permettront le terme, qui ont admis dès le départ qu'il fallait plutôt collaborer avec les jeunes. S'ils commettent quelques erreurs, les aider à les surmonter pour qu'ils deviennent une meilleure version d'eux. Et ça m'a été de cette classe-là, qui savait conseiller, qui savait, de par son expérience, savait guider aussi. Et on a eu quelques expériences ensemble, quelques missions ensemble et tout ça. Donc, c'est très terrible ce qui est arrivé. Et on en a... on continuait la réflexion et on était également dans la peine quand on apprenait également que l'aîné, le doyen, Totoko Pamfo, aussi est parti. Et donc, ça a été très émouvant le week-end, très compliqué. Mais comme les uns et les autres le disent, bon voilà, c'est un passage obligé pour tout le monde à un moment donné de la vie sur Terre. Chacun partira de toute façon. On aurait aimé que ces deux aînés continuent d'être avec nous et qu'ils partent au meilleur moment ou sinon au moment indiqué. Mais bon voilà, le sort en a décidé autrement, que la Terre leur soit légère. Condoléances aux deux familles, sinon aux plusieurs familles explorées. Et beaucoup de courage aux veuves, aux orphelins surtout, aux orphelins dont nous savons à peu près de quoi il pourra s'agir. Beaucoup de courage à eux et que le Seigneur protège tout le monde.
Jacques, au-delà de tout, c'est notre corporation qui se vide également de ses hommes, de ses ressources humaines.
Oui, je suis d'accord avec vous, pas seulement notre corporation, Pascal. Vous savez, comme Didier et Godson l'ont dit, vous savez, on le dit souvent, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre, mais le bien fondé, c'est que nous puissions quand même avoir un certain âge avant de partir. Godson disait tout à l'heure que sa maman et son papa sont en vie. Je crois que c'est une bonne chose, hein, Pascal, d'avoir ses parents en vie, parce que de temps en temps, lorsque vous avez le temps, vous êtes obligé d'aller vers ces parents-là pour vous ressourcer. C'est toujours une bonne chose d'avoir des parents en vie. Et parlant de la corporation, c'est vrai, on a perdu beaucoup, et puis c'est des hommes de valeur qui sont en train de partir. Et c'est le lieu, une fois encore, Pascal, de demander une fois encore au gouvernement, parlant de l'assurance maladie pour les journalistes. Le dossier, je ne sais pas où est-ce que le dossier actuellement, mais il faudrait que les organisations et les associations puissent encore ressusciter ce dossier pour pouvoir permettre à cette corporation-là d'avoir cette assurance maladie. Et l'autre aspect, Pascal, comme on le dit souvent, et c'est vrai, les gens diront que peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, Pascal, mais c'est très intéressant parce qu'à ne serait-ce qu'une fois dans l'année, c'est-à-dire le début de l'année, de faire toujours un check-in, c'est-à-dire que faire le bilan de santé, hein, faire le bilan de santé pour voir ce dont quoi vous souffrez. Parce que si vous êtes là, Pascal, il y en a qui vont, vous allez vous les entendre dire qu'ils ne sont jamais tombés malades, qu'ils ne tombent jamais malades. C'est faux, Pascal. Peut-être qu'il y a une maladie qui te ronge sans le savoir. Jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte, que tu ailles à l'hôpital, les médecins diront que c'est trop tard. Hein, c'est trop tard par cette maladie. Plaise à Dieu que Togolais que nous sommes, pas seulement la corporation, il faudrait qu'on fasse cet effort. Certains diront qu'ils n'ont pas les moyens pour aller faire effectivement un bilan de santé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faudrait que l'État aide effectivement cette corporation, ne serait-ce qu'au niveau de l'assurance maladie, pour que nous puissions avoir effectivement cette carte-là et que lorsque, par exemple, nous sommes malades, nous puissions effectivement aller à l'hôpital pour nous faire soigner. Le plus important, Pascal, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est d'abord essayer de faire le bilan de santé, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, pour déterminer, pour voir ce que nous avons. Parce que certains sont là, peut-être qu'ils ont des problèmes de tension, ils ne le savent pas. Le cholestérol est trop monté, ils ne le savent pas. Le diabète est caché, on ne le sait pas. D'autres également, peut-être c'est le problème de rein et tout ça. Donc,
Jacques, tu m'excuses, puisque nous avons, comme on parle alors de confrères journalistes, on parle de notre corporation. Il y a un confrère journaliste qui est en ligne, on le reçoit. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour à tout le plateau et aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM.
Voilà, Stéphane Tigosou de Sport FM, bien sûr. C'est vrai, hier, vous m'avez raconté une situation inconfortable et personnellement, je tenais quand même à ce que vous racontiez cela aussi en direct dans cette émission. Concrètement, qu'est-ce qui se passe?
Merci, Pascal. En fait, je suis victime d'une situation depuis quelques jours et je pense qu'il est temps pour que je saisisse l'opinion nationale et internationale, que j'informe les autorités aussi et parce que ma vie est en danger. Et depuis quelques jours, il y a des personnes qui me suivent partout où je passe. Lorsque je sors de ma voiture, je les vois en train de faire de grands signes pour indiquer que c'est moi et tout. Et je quitte les lieux. Et lorsque je vais chez mon mécanicien, c'est la même chose. Partout où je passe, c'est des gens qui me suivent. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Moi-même, consciemment, je sais que je n'ai fait de mal à personne. Mais cette situation perdure, ça perdure. Et donc, finalement, je me suis dit, il faut que je servisse l'opinion et les autorités pour leur dire que vraiment, ma vie est en danger. Et comme bien au secours.
Alors Stéphane, quand vous dites que des gens vous suivent concrètement, est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre ces gens-là et que vous reconnaissez bien?
Je ne peux pas dire que je les ai identifiés clairement, mais ce sont des gens que j'ai vu certains en face, puisque il y a certains, lorsque je garde ma voiture, ils essayent de venir bloquer la voiture avec d'autres voitures. Ils mettent des voitures devant et dans les côtés pour que je ne puisse pas sortir au moment où je veux quitter l'endroit où je suis. Il y a certains, une fois je suis sorti à moto, il y a un jeune qui est venu en premier, il est venu prendre sa moto pour bloquer ma moto. Et d'autres aussi, dès qu'ils font ça, il faut voir dans les minutes qui suivent que d'autres vont arriver. Et puis d'autres voitures aussi vont arriver et ils commencent à faire des manigances. Donc, quand je vois la situation comme ça, d'abord, j'ai demandé le jour-là au jeune qui bloquait ma moto que ben, je vais sortir, monsieur. Et donc, il a dû dégager un peu la moto, me permettant de partir. Dans la foulée, les autres sont arrivés. Et puis, bon, moi, j'ai détalé. Et ça a été toujours comme ça. Partout où je passe, je vais voir des gens qui essayent de m'identifier, qui essayent de me doigter. Et la dernière fois, j'étais devant le siège de la Fédération Togolaise de Football. Lorsque j'ai vu les mêmes choses se produire, et j'ai dû donc prendre mes jambes au cou. Alors, concrètement, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, que la personne me le dise après que je m'en excuse.
Mais c'est la question que je voudrais vraiment te poser. Est-ce que tu ne te reproches absolument rien? Est-ce que tu n'as aucun souci avec quelqu'un?
Non, je n'ai aucun souci avec qui que ce soit. À mon âme et conscience, je n'ai aucun souci avec quelqu'un, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan familial. Moi, je suis journaliste sportif et dans le domaine du sport, il n'y a pas assez d'animosité. Nous faisons les débats sportifs comme nous voulons, nous sortons, nous n'avons aucun problème et personne ne m'a jamais apostrophé pour me dire quoi que ce soit. D'ailleurs même, on nous dit que nous sommes des journalistes de la fédération, c'est-à-dire les gens nous donnent cette étiquette-là parce qu'à chaque fois quand je suis sur Radio Victoire, j'ai tendance à défendre la Fédération Togolaise de Football. Donc, les confrères disent que je suis pour la fédération. Et donc, tout logiquement, si je suis pour la fédération, je suis pour le gouvernement. Alors, je suis pour les autorités. Alors, quel est le problème? Parce que si je suis pour les autorités, je ne pense pas que quelqu'un d'autre chercherait, aurait même les moyens de mobiliser autant de personnes pour me pourchasser. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes et les moyens utilisés sont colossaux. Donc, sincèrement parlant, j'ai gardé ça, j'ai essayé de garder, j'ai demandé aux confrères, aux amis, est-ce que vous avez appris, quelqu'un ne vous a pas dit que Stéphane a péché contre lui, a fait quelque chose pour lequel il est poursuivi? Les confrères disent non. Jusqu'à ce matin, je viens encore de poser la question à certains de mes confrères pour savoir, est-ce que eux, ils ont appris que j'ai fait quelque chose de mal pour que je puisse aller m'excuser? Ils disent non, ils n'ont rien appris du tout. Donc, finalement, on m'en veut pour rien, ou bien pour une raison que je ne sais pas. Et donc, voilà pourquoi je tiens à partager l'information avec l'opinion aujourd'hui.
Oui, Stéphane, dernière question, mais est-ce que déjà vous avez alerté la police ou la gendarmerie pour ce qui vous arrive?
Oui, j'ai rendez-vous. Ce matin, je vais à la DPJ, comme ça, pour aller faire une déposition. J'ai saisi certaines personnalités de notre pays, notamment des hommes de l'armée, à qui je me suis plaint Ils m'ont donné des instructions, ils m'ont dit de prendre soin de moi, de savoir poser mes pas et tout. Et donc, je ne suis pas resté les bras croisés. C'est vrai que au départ, je prenais ça comme de la blague. Parce que bon, je ne me reproche de rien, donc moi je m'arrête partout pour manger, pour boire, pour faire ci, pour faire ça. Mais lorsque ça continuait, je me suis dit, ben attention, là c'est du sérieux. Et puis bon, d'où tiennent-ils tous ces moyens pour me poursuivre durant des mois? Je ne sais pas. Donc, ça me dit que c'est du sérieux. Et c'est là que j'ai dû sortir ma chronique, ce que j'ai remarqué, où j'ai raconté la chose dans les rebats. Les gens m'ont appelé, les gens se sont indignés, les gens se sont demandé qu'est-ce qui ne va pas. Et effectivement, moi, je ne me reproche de rien. Si, sur cette antenne où je suis en train de parler, quelqu'un dans ce pays qui est en train de nous écouter estime que Stéphane l'a offensé, et qu'il me le dise, ou qu'il envoie quelqu'un me dire que c'est parce que tu m'as fait ci que je suis en train de te chercher, de où vient de chercher à te tuer.
D'accord. Voilà. Stéphane Tigosu, merci d'être passé dans cette émission. Merci d'être en ligne, même justement avec nous. Et Gosson, on a écouté notre confrère. Et c'est vrai, hier, moi j'ai lu d'abord la chose sur les réseaux sociaux. Et par après, nous sommes rentrés en contact où Stéphane m'a raconté justement cette mésaventure et aussi cette situation inconfortable. Mais je pense quand même que c'est une situation grave là.
Bon, Pascal, tu sais, je suis assez mal à l'aise en voulant parler ou commenter ce que je viens d'écouter. Parce que il y a encore rien, excusez-moi le terme, je pèse bien mes mots, il y a encore rien de palpable sur lequel on peut s'appuyer pour dire que la vie de tel confrère est en danger. Si la poursuite ou alors le fait de le suivre se prolonge, il parle de ça d'un mois pratiquement. Si on veut attenter à sa vie, certainement qu'on doit connaître chez lui. On l'a vu, il dit avoir vu des gens qui le suivraient. Pourquoi on ne lui a encore rien fait jusque-là? Il a reconnu qu'il prétend qu'il ne se reproche rien. Il ira à la DCPJ faire une déposition. Je suggère qu'il en fasse aussi, qu'il dépose une... Est-ce que c'est une plainte? Parce que quand le juge va lui poser des questions, il faut des éléments vraiment tangibles. Voilà.
Il faut de la matière.
De la matière. Excuse-moi, je serais à sa place. D'abord que je ne m'en étonnerais pas de par la profession que j'exerce. Et si c'est sur des jours qu'une personne me piste, après avoir fait cette déposition, soit j'arrive à reconnaître que cette personne me piste, je suis un homme avant tout. On ne meurt qu'une fois. C'est même pas la nuit. Je vais vers cette personne. J'ai l'impression que vous me suivez. Au moins, ça me permettra de bien voir son visage, d'apprécier ce qu'il va me répondre. Et après, si par exemple, je dois aller vers la justice, je saurai quoi raconter au juge, au procureur. Autrement, excuse-moi encore, je dis pas que je doute.
Non,
je dis, il faut d'autres éléments pour apprécier.
D'accord.
Voilà. Didier, ce qui arrive au confrère est compliqué. C'est très très compliqué parce que, vous savez, il dit qu'il n'a, en son âme et conscience, il n'a rien fait à personne. Et je crois que c'est le sentiment de tous les journalistes normalement. Après, nous réagissons sur l'actualité, sur des faits de société et nous pensons servir l'intérêt général, nous pensons faire un travail utile pour toute la population, pour l'intérêt général, pour le bien de tous. Mais il se trouve que dans ce métier là vous fabriquez facilement des ennemis, même sans le savoir. Des gens ont estimé que pourquoi vous avez utilisé tel mot à la place de tel, pourquoi vous ne semblez pas soutenir telle personne au lieu de telle, pourquoi vous ne semblez pas venir puiser dans leur esprit et savoir ce qu'eux ils doivent penser et parler à leur place à eux par procuration. Et donc tous les gens vous en veulent en tout moment pour vos raisonnements, pour vos analyses, des fois justes, des fois correctes par rapport à ce que vous voyez, par rapport aux éléments dont vous disposez. Mais des gens vous en veulent et vous ne savez pas. Pascal, toi et moi, nous sommes aujourd'hui lundi dans ce studio, nous ne savons pas si déjà on a, en prenant simplement la parole ici, des gens s'énervent dans la ville, un peu partout, de ce que, pourquoi nous sommes ici. Et ça aussi, c'est des réalités de la vie que je crois que nous journalistes, nous devons intégrer. Nous faisons un métier dans lequel nous sommes, on peut savoir.
On est exposé.
On est exposé à tout vent. Un aîné a une fois dit que si vous êtes journaliste, il faut dire à chaque fois à vos familles, quand vous sortez de la maison, vous ne savez pas quand est-ce que vous rentrez. Parce que vous ne savez pas, le travail que vous faites, ça empiète sur l'intérêt de quelqu'un ou sur les intérêts d'autres personnes. Et ils vous en veulent sans le savoir. Et je crois que Stéphane dit que pour lui, aucun individu ne pourrait pas avoir autant de moyens qu'on mobilise autour de lui. Mais il oublie que des gens au Togo ont autant de richesses que... Il y a des individus au Togo qui sont bien riches, hein, et qui pourraient mobiliser, s'ils veulent faire du mal à quelqu'un, ils pourraient mobiliser autant de moyens, ils en ont. Des gens de l'argent ne savent pas quoi faire. S'ils pensent que tes analystes et prises de position leur posent des problèmes et va donc mettre un peu du sable dans leur attiéké, ils pourront mobiliser tout ce qu'ils veulent pour te faire payer. Mais Dieu merci qu'il a dû remarquer ces situations et qu'il est en train d'informer aujourd'hui l'opinion publique. Et je crois que les autorités, la plupart, doivent être à l'écoute et en suivant cette émission actuellement. S'il y a des mécanismes de protection à accorder aux journalistes, pas seulement aux journalistes, parce que quand nous le disons, des gens pensent, nous prenons pour qui? Pour un Togolais qui se sent en danger chez lui au Togo, s'il y a des mécanismes de protection, des procédures pour rapidement saisir qui de droit, pour que cette histoire, ceux qui traquent Stéphane puisse être stoppé et arrêté, identifié, et qu'on leur pose clairement la question pour qu'ils justifient l'objectif pour lequel ils poursuivent un honnête citoyen un peu partout où il va, et ben, que des gens en inbox ou après la radio puissent peut-être vous saisir ou à lui-même directement, qu'on donne la procédure à suivre pour ameuter justement les autorités pour qu'ils prennent les mesures de sécurité de notre confrère. Donc pour finir là-dessus, ça a été pratiquement peut-être la même chose. Paix à son âme. Je crois Yekini Rachidine,
je pense.
À l'époque, oui. Gosson peut-être s'en souviendra, notre confrère de Golf Info, qui sentait les mêmes menaces et on avait vu dans quelles conditions il était mort. Donc voilà, nous ne voulons pas que des choses du passé se reproduisent encore dans notre pays. Donc que les autorités, et ce sera l'image du Togo encore une fois, donc que les autorités réagissent assez rapidement pour accorder leur protection à notre confrère.
Merci Didier. Oui, Jacques.
Non, je crois qu'il a pris la meilleure option quand il dit que finalement il va essayer de déposer les plaintes. Il dit que cet après-midi sera la DPCJ, donc je crois que c'est déjà une chose. Il faut qu'il puisse déposer effectivement la plainte. Mais là où je ne comprends pas trop ce qu'il avance, je serais à sa place plutôt que je n'allais pas avancer cet argument là en direct. Peut-être que je pourrais le tenir lorsque je serai devant les enquêteurs, parce qu'il dit que c'est comme ça, il prend des positions pour la fédération et que les gens assimilent à ce qu'il est du pouvoir et tout. Je crois que peut-être qu'il est en train de donner un avis par rapport à sa prise de position. Je ne sais pas si c'est ça qui lui vaut cette persécution. Donc je ne sais pas, selon ce qu'il a dit. Mais je crois que le plus important, c'est le fait que lui-même, il a pris la décision d'aller porter plainte. Et quand il porte plainte, je crois qu'il faut qu'il saisisse également les organisations professionnelles de la presse pour leur alerter également par rapport à sa situation, et qu'il fasse, il faut qu'on l'accompagne. Peut-être un responsable d'une association puisse l'accompagner cet après-midi pour rencontrer effectivement les personnes, saisir également la HAC, le ministère de la Communication et tout, pour pouvoir effectivement alerter sur ce qui se passe sur sa vie. Parce que quoi qu'on dise, il ne faudrait pas qu'on puisse être encore là demain et regretter l'acte que les gens vont poser encore dans les ténèbres contre nos collègues. Donc, il faut vraiment, vraiment que nous puissions prendre les dispositions pour dire haro par rapport à la situation de notre confrère.
Merci, cher confrère. Nous allons aborder un autre sujet. Je le disais dans mes mots introductifs que nous sommes dans cette semaine à la dernière ligne droite. Alors, pour les municipales du 17 juillet prochain, la campagne électorale prend fin ce mardi à minuit. Et il y a des journaux qui sont revenus sur cette campagne électorale. Il y a le journal Libération qui écrit « Mobilisé aux côtés à l'heure du candidat Boussiadé Koudzo, les populations promettent un raz de marée électorale à la liste unie. » Et autre journal, c'est le journal Liberté. Liberté qui écrit bien sûr par rapport à ces élections municipales, l'opposition togolaise entre révolution et élection, le grand dilemme. Et oui, Gosson, comment vous appréciez d'abord cette campagne électorale qui tend vers sa fin?
Je l'apprécie sous le prisme de ce maire-là que j'ai eu à contacter pour savoir comment il prépare la campagne. Il a été clair qu'il n'a pas ses idées à la campagne par rapport au sang qui a coulé dans le pays.
Qu'est-ce que le maire vous a dit?
Claire, il me l'a écrit. Souffrez que je ne donne pas son nom. Mais j'ai pu comprendre par là que, au-delà du poste de maire qu'il pourrait chercher à conserver, c'est d'abord ce qui a précédé la campagne qui l'interpelle. Au point qu'il pourrait, je ne sais même pas s'il a pu se lancer dans la campagne finalement, mais il a été très affecté et il trouvait bizarre qu'on passe par perte et profit ces incidents et qu'on soit actuellement en train de finir la campagne. C'est vrai, d'aucuns diront, si vous n'y allez pas, le camp d'en face ira. Bon, je ne suis pas politicien, je suis juste journaliste, je vois les faits, j'apprécie. Et quand nous disons l'opposition togolaise entre révolution et élection, chacun doit comprendre. Parce que tantôt, on demande le report. Et parce que le camp d'en face ne dit mot, on se convainc que si on n'y va pas, ce camp ira. Donc, doit-on refuser d'y aller ou y aller quand même? Mais en y allant, ça, c'est comme la revendication qu'on a posée demandant le report de l'élection n'est pas si ferme au point de pas contraindre, au point de faire comprendre au camp d'en face qu'effectivement il faut laisser un temps avant de lancer la campagne électorale. Donc c'est sur ces faits que nous trouvons que il y a un grand dilemme au sein de la classe politique de l'opposition.
Disiez, est-ce que vous estimez aussi, vous avez l'impression que ce dilemme existe au sein vraiment de l'opposition? Parce que c'est vrai, lors de lancement de campagne le vendredi dernier, l'ANC est revenue sur le sujet. Il y a Jean-Pierre Fabre, bien sûr, le président de l'ANC, qui est revenu sur le sujet pour dire qu'il est très important qu'il, en tant que parti politique, il aille alors à ces élections. Mais au même moment, ce sont eux qui demandaient alors le report.
Oui, la question que tu me poses là vaut un sujet de thèse ou même deux. Mais honnêtement, il faut être réaliste dans le monde actuel. Vous savez, quand on est un parti politique d'opposition, on ne peut faire la politique avec les moyens légaux. On ne peut que faire la politique de la façon légale, en respectant les règles, les lois qui se trouvent dans le pays. À partir de ce moment-là, vous avez beau poser des revendications, vous avez posé des doléances, vous avez des demandes, des négociations, mais vous serez en un moment donné devant le fait accompli qui est que les règles du jeu telles que fixées sont celles qui gouvernent les compétitions électorales. Et il se trouve que nous sommes dans un pays, et je ne peux même pas me tromper, je peux dire nous sommes dans un monde où les moyens de dévolution du pouvoir, c'est uniquement à ce jour, légalement, les élections. Les élections constituent le seul moyen à ce jour légal de dévolution du pouvoir. Sauf dans d'autres cas où il y a des soulèvements populaires dans d'autres pays, où il y a des coups d'État militaires dans d'autres pays. Gosson me dira qu'il y a aussi des coups d'État constitutionnels et institutionnels. Bon, mais moi, je parle de ce qui est légal. Ce qui est légal, c'est la dévolution du pouvoir aujourd'hui reconnue au Togo et dans la plupart des pays que je connais, c'est les élections. À partir de ce moment-là, vous créez un parti politique pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. D'aucuns diront pour le conserver. Est-ce que vous êtes parti politique pour à chaque fois boycotter les élections, laisser l'adversaire seul continuer à disposer de tous les leviers de décision, de tous les leviers de développement du pays pour continuer à faire ce qu'il fait et que vous trouvez pas bon du tout ou que vous pensez qu'on pourrait améliorer dans les faits? Voilà le dilemme d'une opposition aujourd'hui au Togo qui est que opposition, ou peut-être qu'on dira, on l'a réduit à l'opposition, à son rôle d'opposition depuis plus de 30 ans, et qui n'a pas les moyens, qui a perdu des hommes, qui a perdu des valeurs, qui a perdu beaucoup de moyens, et qui se trouve souvent être devant des contingences, comme par exemple les situations que nous vivons ces dernières semaines dans le pays, la situation de tous les jours des Togolais, et vous êtes face à ces situations. Vous prenez fait et cause, peut-être pour les jeunes qui manifestent, pour ceux qui ont perdu la vie, après avoir dit tout ça, après avoir pris fait et cause pour ces gens-là, il y a quand même une élection qui est en cours d'organisation, où si vous refusez forcément d'y aller, vous perdez de la place, comme ils ont perdu de la place déjà en 2018, en boycottant les élections législatives, et des gens leur imputent tout ce qui arrive dans le pays parce que l'opposition avait boycotté en 2018, donc c'est pour ça que des gens font ceci, et de façon légale. Donc, s'il y a à se plaindre, c'est la faute à l'opposition, la pauvre. Et est-ce que aujourd'hui il faut encore encourager les opposants à boycotter les élections municipales? Malheureusement, dans notre pays, on a choisi de politiser ces élections, mais sinon ailleurs, c'est des élections citoyennes. C'est des élections de quartier, c'est des élections citoyennes où chaque citoyen, peu importe là où il milite, mais peut être candidat pour la gestion de son quartier à lui, parce que c'est une question d'abord de développement du quartier, de développement de la maison du quartier, après les quartiers, la commune, et après, avant de penser même au développement de tout le pays. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense que c'est notre système politique qui a tout gâté. Sinon, si ces élections avaient été calquées comme au Ghana, comme ailleurs, sur le format d'élection citoyenne, on ne serait peut-être pas en train de faire le procès aux opposants qui vont actuellement aux élections municipales. Sinon, les élections municipales, moi, ça n'engage que moi, ça c'est ma doctrine à moi. Les élections municipales, c'est des élections qui impulsent le développement à la base. Donc ça concerne monsieur tout le monde. Pascal, si tu n'as pas de caniveau dans ton quartier, mais le temps que M. Fornyasingbe, le président du conseil, se décide de savoir que tu vis dans un coin à Bagida et qu'il sache qu'il n'y a pas de caniveau, là, c'est très compliqué. Mais le maire à côté, lui, il peut, quand tu vas l'interpeller, essayer de trouver un mécanisme où on fait le drainage et l'assainissement dans le quartier. Donc, les élections locales, en réalité, ne sont pas des élections boycottables. Et les élections législatives aussi ne sont pas des élections boycottables. Parce que ces élections constituent pratiquement la clé de voûte de prise de décision dans le pays. Parce qu'à partir des élections législatives, on va recomposer la CENI. On va recomposer un certain nombre d'institutions. Vous n'êtes pas là, mais la CENI va organiser les élections majeures demain. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans les institutions que ces élections permettent de composer. Vous ferez quoi après? Vous allez crier, vous allez demander le report, vous allez manifester, vous allez faire ci. Mais si le pouvoir n'est pas animé d'une très grande bonne volonté, ben, votre demande ne sera pas acceptée. Et ben voilà, les élections seront organisées et vous n'aurez les yeux que pour pleurer et vous continuez de perdre le terrain.
Merci Didier. Jacques, est-ce qu'on peut comprendre quand même cette partie de l'opposition qui demande le report de ces élections?
Vous savez, l'opposition en face de la peste et du choléra, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce la peste ou le choléra? C'est ça le problème. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de vivre dans le pays, c'est le problème politique. C'est le problème politique qui nous conduit dans tout ça. Comment on peut parler d'une élection locale et qu'on va encore parler des partis politiques? Ça n'a pas de sens, Pascal. Ça n'a pas du tout de sens.
Comment ça concerne plus les citoyens?
Ah, bien sûr, l'élection locale me concerne. C'est-à-dire que quand je suis dans une localité, les gens savent que peut-être que Gosson a les moyens de développer son quartier. Et on lui donne effectivement le pouvoir de le faire. Regardez même, quand on a fixé la caution, on était obligé encore de réduire la caution parce que certains n'avaient pas les moyens pour pouvoir le faire. Mais quelqu'un n'arrive pas à payer 50 000. Et vous élisez cette personne-là comme maire. Parce qu'entre nous, qu'est-ce que la personne peut faire? Jusqu'à ce qu'elle ne puisse retrouver ses repères, elle va vouloir d'abord régler les factures. Elle a eu à dépenser avant de pouvoir s'asseoir. Donc, vous voyez, donc je crois qu'il faut que nous puissions sortir effectivement de ces carcans politiques. Le jour qu'au Togo, nous allons sortir de ces carcans politiques et laisser les beaucoup de populations de faire leur choix et développer leur loyauté, on n'aura pas de problème. Aucun problème. Les Togolais, dans certains quartiers, ont les moyens pour pouvoir développer les pays. Mais lorsque la politique se greffe sur effectivement l'ensemble de ces élections, les gens ont peur. Parce que les gens auront peur aujourd'hui, lorsqu'ils vont investir leur argent. On va commencer peut-être par se poser des questions. Parce qu'elle a eu l'argent où? On va mettre un peu partout dans ses affaires. Et si on ne sait pas faire, finalement, il va fuir. Donc c'est ça. Donc l'école, c'est une liberté donnée aux populations des quartiers de pouvoir développer effectivement les quartiers. J'ai suivi un candidat qui disait que lorsque lui, on va les lire, il va mettre les forages et autres dans son quartier. Mais écoutez, quand on parle comme ça, Pascal, dites-nous, tu auras les moyens pour effectivement mettre ces forages-là. Lorsque même on parle d'une caution, tu demandes à réduire la caution. C'est ça le problème. Moi, je crois que attendons pour qu'on puisse effectivement enlever effectivement les affaires dans les élections locales et permettre effectivement au quartier de pouvoir se développer. Aujourd'hui, quand vous allez dans certains pays, on parle aujourd'hui de la référence du Rwanda, on parle de la référence du Bénin. Et quand vous prenez par exemple l'arrondissement de Cotonou, c'est une seule mairie, la mairie de Cotonou, l'arrondissement de Cotonou. Donc vous voyez, donc lorsque les gens ont ce genre de moyens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne feront que développer la localité. Aujourd'hui, ici, on a essayé d'émietter un peu les quartiers. Chaque famille a sa mairie. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher, Pascal. Ça ne pourra pas marcher. Je vous dis, quand vous prenez certaines mairies, essayons de faire le bilan. Vous verrez, certains n'ont rien fait parce qu'ils n'ont pas les moyens. Certains n'ont absolument rien fait. Moi, je crois qu'à un moment donné, essayons de repenser effectivement la décentralisation. Posons-nous effectivement des questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça puisse marcher? Enlevons effectivement la politique. Et si on essaie d'occuper la question politique au niveau du développement local, ça va marcher, Pascal. Ça va marcher, vous verrez. Quand quelqu'un va visiter le Togo, les gens vont se poser des questions. Les gens ont eu l'argent pour développer tant, effectivement, les quartiers, tant développer les villes. Et l'autre aspect, vous avez parlé de l'opposition, c'est vrai. Quand vous prenez, par exemple, le dilemme des marches, vous prenez également le dilemme de la Constitution. Tout ça, là, ça crée aujourd'hui des problèmes. Vous prenez aujourd'hui l'Internet qui ne fonctionne pas. Vous prenez aujourd'hui, là un peu, la violence qui a eu lieu. Mais vous voyez que les gens, Pascal, n'ont pas leur cœur, effectivement, dans ces élections. Vous voyez ce qui se passe même au niveau de la campagne. Les gens sont obligés de se réduire à faire du porte-à-porte. Hein? C'est comme des mendiants. Les gens frappent aux portes des gens comme s'ils sont venus mendier. Vous voyez, alors que c'est une campagne que les gens sont en train de faire. Et quand vous voyez certains, comment on les accueille, mais Pascal, c'est pas bien. Hein? On vous renvoie comme des malpropres. On n'a pas besoin de vous ici. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous voyez, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on ne sent pas l'engouement autour effectivement de ces élections parce qu'il y a des antécédents quand même qu'il faut d'abord régler avant de l'épousement vers ces élections qui vont constituer un socle parce que quand on parle de des municipales, c'est un développement local, c'est-à-dire que c'est la localité. Quand vous, Pascal, tu vis vers comment on appelle la Koresewa, tu connais bien les problèmes de la Koresewa. Gorson est vers disons Adeti Kopé, il connaît les affaires d'Adeti Kopé. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise qu'Adeti Kopé a besoin de ci et ça. On connaît, on est dans le quartier. Donc, c'est des gens comme ça qu'il faut prendre, ceux qui maîtrisent effectivement les quartiers, ceux qui ont un projet viable, bancable, pour pouvoir développer ces milieux-là qu'il faut prendre.
D'accord. Oui, mais Gosson, c'est vrai que au-delà de aujourd'hui, il y a un premier mandat que certains maires ont déjà effectué. Et aujourd'hui, le terrain, il présente en plus le bilan. Et nous étions avec le maire à Boca du Golfe 5 le vendredi dernier et qui faisait aussi son bilan dans cette émission. Et nous étions également sur le terrain. On a constaté aussi avec Jean-Pierre Fabre du Golfe 4 qui présentait aussi ces bilans et disait que déjà avec ce bilan, ils ont les raisons possibles et plausibles, j'allais dire, pour que les électeurs puissent alors les élire de nouveau. Mais et quand on prend aussi le Golfe 1 avec le maire Gomado, lui aussi sur le terrain, il présente aussi les bilans avec des réalisations sur le terrain. Finalement, quel est aujourd'hui le bilan qu'on peut présenter alors de ces mairies ou de ces communes gérées par un certain nombre alors de maires?
Et qu'en est-il des mairies dans lesquelles ce sont des membres du gouvernement qui battent campagne? Ils n'ont pas eu à gérer ces mairies-là, mais ils auront quel bilan à présenter? Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont les moyens. Question difficile. Donc pour les maires qui ont eu à gérer des communes et qui présentent des bilans, c'est de bonne guerre, c'est ce qu'il faut. Et les populations doivent comprendre que les élections municipales constituent une force pour chaque citoyen pour sanctionner, je ne sais plus. Parce que à l'issue des votes, on aura à tout comptabiliser sur place et on va déterminer qui a été le meilleur. Il ne sera plus question, et le risque n'hésitera même plus à savoir que soit c'est les unes qui vont être emportées quelque part et après on va centraliser ces résultats. Non, soit dit en passant, c'est sous la houlette de la Cour suprême dont on envoie un coucou au président actuel. Parce que la dernière fois, nous avons appris à travers un atelier qu'à l'issue des élections municipales, et ça vaut pour tous les candidats, tous les partis politiques, quand vous estimez que vos voix n'ont pas été prises en compte, ou alors le comptage, ou alors qu'il y a des irrégularités, il ne suffit pas de crier sur les ondes ou dans une presse comme quoi, dans telle mairie, il y a des irrégularités, ou alors de décrire ces irrégularités. Non. Votre recours risque d'être rejeté avant même d'être lu. Il y a des préalables. C'est à vous de rassembler les preuves, de déposer les recours dans les délais et trois autres conditions qui font que, à l'issue de cet atelier, je ne serai plus surpris que des recours ne reçoivent pas de réponse parce que les juges sont très restreints pour étudier tous ces recours, autant les recours seront pluriels et donc il revient à chaque plaignant, celui qui veut adresser le recours, de tout compiler, de faire ce qu'on appelle un dossier béton afin que le juge puisse trancher facilement et rapidement. Donc pour revenir à ceux-là qui font le bilan au bout des 6 ans, quoi de mieux? Puisque nous réclamons ça à la tête du pays, ce qu'on ne voit jamais, l'état de la nation qu'il est demandé au président de la République de faire, c'est une exigence, mais on ne le fait pas et la population n'a pas les moyens de contraindre le préposé à le faire. Si les maires comprennent que pour faire la cour aux électeurs, il faut présenter un bilan, présenter un rapport, c'est de bonne guerre. Mais je souhaite que ça soit étendu jusqu'au sommet de l'État, afin que, c'est ça qu'on appelle un peu la reddition de comptes. Merci.
Didier, aujourd'hui, c'est vrai que CMR présente des bilans avec des réalisations à l'appui. Quand on prend le Golf 1 avec le maire Gomado, il y a des réalisations, bien sûr, qui sont là, et avec ces réalisations, le maire est sur le terrain pour convaincre alors les uns les autres à continuer, même d'ailleurs, ce travail qui a été commencé. Alors, finalement, on pourra dire que si la décentralisation n'existait pas, il fallait l'inventer alors.
Pascal, ce que je sais, et de ma petite expérience, c'est que quand vous avez un dirigeant qui sollicite une réélection, il trouvera toujours un bilan, et un très bon bilan, pour se faire réélire. Ça, en Afrique, ça ne manque pas. Vous trouverez toujours des dirigeants, ils vont trouver toujours un très bon bilan.
Mais est-ce qu'il n'y a pas du concret aujourd'hui ?
Globalement, pour la décentralisation au Togo, je n'accuse pas la politique de décentralisation elle-même. Mais, ma foi, il y a des choses à améliorer dans la façon dont cette politique est mise en œuvre au Togo. Et c'est dans la façon qu'on peut trouver beaucoup de lacunes au fonctionnement des mairies, et on peut trouver beaucoup de manquements dans les bilans que les maires sortants auraient pu présenter un peu partout où ils sont actuellement en campagne. C'est ce qu'il faut dire. Il faut prendre le processus globalement pour dire, Gomado, tout le monde a reconnu qu'il a fait quelques coups d'éclat dans le Golfe 1, mais comme les uns les autres l'ont dit, dans le Golfe 1, les gens se plaignent. Il y a encore des caniveaux qui sont ouverts, qui ne sont jamais fermés.
Mais c'est parce que les défis sont énormes.
Oui, mais ça n'explique pas. Les défis sont énormes, ça n'explique pas. Et donc, du coup, on est déjà dedans. Nous, nos analyses ici ne vont rien changer pratiquement. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut revoir notre processus tel qu'il est. Est-ce que nos maires, aujourd'hui, ont tous les moyens, tous les pouvoirs, toutes les possibilités de, par exemple, quelqu'un comme Gomado, de sa compétence qu'il a, ses expériences qu'il a, de pouvoir véritablement tout ce qu'il a en lui, en son âme, pouvoir mettre en application dans Golf 1, je ne crois pas que les tests lui permettent véritablement ça, et qu'il ait aujourd'hui les coudées franches. Quoique ministre-maire, il y a beaucoup de choses qui constituent un obstacle à son projet et à sa vision de voir son baie natal être développé et devenir une commune modèle peut-être demain. Et donc, dans le processus même, il y a beaucoup de choses peut-être à revoir. Et quand on parle de bilan des maires aujourd'hui, c'est le bilan du processus de décentralisation que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous avons aujourd'hui autant le courage de questionner, pendant qu'on parle de bilan de maires, de questionner les textes, de questionner les procédures, de dire clairement aux autorités qu'il y a des choses qu'on aurait pu améliorer dans les procédures, dans les tests, il y a beaucoup plus de pouvoir qu'on aurait pu donner aux maires aujourd'hui pour que la décentralisation telle que nous la concevons et telle que nous la voulons, d'ici à 2031, si les élections aient lieu en 2031, au mieux des cas, pour qu'on puisse justement avoir des communes qui ont changé de visage après 12 ans de gestion. Voilà aujourd'hui la question qu'il faut se poser. Il y a quelques maires sur les 117 qui ont fait quelques coups d'éclat. On parle de Gomado, on peut parler d'autres également. Comme on l'avait dit ici, on a vu Jean-Pierre Fabre également, tu l'as dit d'ailleurs, qui présente un bon bilan, notamment en ce qui concerne l'état civil des citoyens qui ont eu beaucoup d'actes d'état civil et tout ça. Plein de maires ici et là qui ont fait Cloto, on pourra parler. Mais après qu'on ait fini de parler de ça, qu'est-ce qu'on peut dire du maire de Ogou 4, de Sotoubouya 3, on peut parler, je ne sais pas, Pendial 2, et tout ça. Mais voilà, on ne va pas prendre une dizaine de mairies qui ont bien fonctionné pour les calquer au 117 pour dire que tout a bien marché, et ne pas faire peut-être une introspection pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer pour permettre justement à ces mairies, si on a voulu garder les 117, à ces mairies d'avoir les coups des franges, de mieux fonctionner, pour ce que nous disons ici, qu'on voit moins d'implications politiques et de redevabilité politique de ces maires-là, plutôt que leur engagement plutôt à développer leur milieu, leur village, leur quartier, et pour que tous les citoyens se sentent mieux Voilà le bon bilan, à mon avis, qu'on aurait dû faire de notre processus de décentralisation.
Jacques, c'est vrai que le constat fait pour ces municipalités, c'est que moi, personnellement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de confrères journalistes qui se sont lancés dans la danse pour enfin, leur candidature à ces municipales. Alors, et quand on prend même chez mon confrère Didier, il y a Louis Kamako qui est dans le Yoto, il y a Gilda Sadiakoto de Victoire FM, il y a beaucoup de confrères, hein. Il y a le journaliste, bien sûr, René Ouemene, bien sûr, qui porte également les couleurs des FDR. C'est ce que le Liberté écrit, hein, ce matin. Alors, est-ce que ça veut dire que déjà, avec nos analyses et tout ce que nous faisons déjà sur les sujets de l'actualité, on préfère maintenant aller au devant de la scène pour la gestion de la chose locale?
Oui, bon, bonne chance à nos confrères, mais il faut reconnaître qu'ils sont tombés dans un marigot où il y a trop de caïmans. Le marigot regorge trop de caïmans et j'ai peur pour eux, quoi. Ils ne pourront pas vraiment traverser. Parce que, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que, Pascal, si on avait une politique stable par rapport à cette situation, on n'aura pas du tout de problème. On n'aura aucun problème. Mais aujourd'hui, je vous dis, quand vous allez sur le terrain, vous voyez comment la campagne se passe, vous allez vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que les populations vont faire par rapport au choix de ces maires? On a parlé tout à l'heure du bilan de certains. Ce que vous avez cité, Pascal, c'est parce qu'ils ont les moyens. Ce que vous avez cité, qu'ils ont essayé de faire quelque chose, c'est parce qu'ils ont les moyens. Vous allez dans certaines localités, un marché peut-être qui s'anime une fois dans la semaine, par mois, ce que le maire perçoit ne fait même pas 2500. Où est-ce que ce maire-là fasse quoi, Pascal? Il ne peut rien faire. Donc, c'est des fortunes diverses par rapport aux tailles et au poids également de certaines mairies. Donc, on ne peut pas dire que celui-ci a mieux travailler par rapport à l'autre, parce que ça dépend des moyens que les gens ont. Quand vous prenez certains, ils ont les marchés, ils ont les banques et tout, mais quand vous prenez certains, mais ils n'ont rien. Simplement un simple marché. Et peut-être également un parc où les gens viennent laisser leurs bœufs pour aller vendre. Et là, on perçoit les taxes. Combien? Donc c'est ça. Je crois que il faudrait aujourd'hui que nous puissions aller à l'apaisement par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que, Pascal, quand vous voyez un peu la situation, on sent qu'il y a une violence physique, une violence verbale dans le sphère, effectivement, de notre pays aujourd'hui. Donc, il faudrait tout faire pour que cette violence physique et cette violence verbale également puissent baisser. On l'a toujours dit. On a vu que, depuis un certain temps, le degré d'intolérance dans notre pays a pris un coup. Donc, comment faire pour effectivement faire redescendre la température? Ça, c'est la responsabilité à tout un chacun d'entre nous. Et l'autre aspect, Pascal, c'est le problème de l'Internet. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous allez un peu dans les banques, vous allez voir de longues files d'attente. Les gens, pour prendre leur argent qu'ils ont déposé, ils ont des problèmes. Et vous savez, quand quelqu'un va dans une banque, il n'arrive pas à prendre son argent, on lui dit que ça cause effectivement de l'Internet, Pascal, c'est de l'insécurité que ça crée. Parce qu'aujourd'hui, dans la tête des Togolais, ah, si je dépose mon argent dans la banque et demain je ne peux pas aller le chercher, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont garder l'argent à la maison. Et quand ils gardent l'argent à la maison, Pascal, c'est l'insécurité. Il y a les souris qui vont commencer par manger de l'argent. Il y a également les termites et également aux voleurs. Et quand vous prenez également nos sœurs, nos frères, qui utilisent par exemple TikTok pour pouvoir vendre un peu les articles qu'ils ont, aujourd'hui, ils n'arrivent plus. Et ça aussi, également, c'est un problème, Pascal. Les gens ont fait un prêt au niveau, effectivement, des microfinances. Les gens ont fait les tontines qu'ils ont ramassées et ils ont investi pour pouvoir vendre au niveau de TikTok. Mais c'est bloqué. On nous dit aujourd'hui, vous allez voir, la plupart des Togolais, ils ont contourné, effectivement, cette fermeture. Ils sont allés en mode VPN. Et quand vous voyez aujourd'hui, Pascal, les lives que certains font, 15 000, 10 000, mais vous vous posez la question, finalement, à quoi rime effectivement cette fermeture? Si les gens contournaient tout ça et qu'on arrive à avoir sur un live seulement 10 000 à 15 000 personnes. Moi, je crois qu'il faudrait que le gouvernement puisse réfléchir, voir comment effectivement aider. Aujourd'hui, ceux qui sont pénalisés, C'est les petits vendeurs là qui sont pénalisés. C'est les banques qui sont également pénalisées. Et aujourd'hui, c'est l'économie togolaise qui est en train de prendre un coup. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement... Et puis quand vous parcourez un peu la fermeture ou bien la restriction d'Internet, Pascal, vous ne verrez nulle part une décision que le gouvernement a prise. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une anomalie. Il fallait d'abord passer par l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale prenne effectivement un acte pour dire non, écoutez, et le gouvernement va exécuter. Mais là, on ne sait pas qui a fermé. On est là-dedans comme ça. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est l'RTP qui a fermé? Qui a restreint? On ne sait pas. Donc, je crois que c'est des choses quand même qu'il faut corriger. D'accord. Pour aider effectivement nos populations.
Merci beaucoup, Jacques. Oui, Gosson, on sait dans quelles conditions même d'ailleurs ces élections sont, ou le processus même d'ailleurs du municipal est en cours. Et effectivement, la semaine dernière, il y a, pour ce qui concerne les manifestations des 26, 27 et 28, le gouvernement s'est prononcé bien sûr là-dessus. Et vous écrivez ce matin, Togo, derrière la répression, un clan de plus en plus divisé, avec la photo alors du président du conseil à la une alors de votre journal. Mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur cette sortie du gouvernement. Comment vous appréciez cette sortie puisque vous y étiez?
Nous y étions. Mon appréciation est assez simple. Pour une question de sécurité, que je voie un ministre de l'enseignement technique prendre le lead, Pascal. Pour le moment, nous ne marchons pas encore sur la tête dans le pays.
Et il fait partie du gouvernement.
Tu viens de dire que j'y étais. Je dis que c'est lui qui avait le lead. C'est lui qui décrivait toute la situation comme s'il était ministre de la sécurité ou alors chef d'état-major. J'ai trouvé ça pas aberrant, mais très bizarre. Comme si... Bref, pour ce qui est de... Est-ce que c'est une communiqué, c'est une conférence? Moi, j'assimile ça plutôt à une menace et des accusations très graves. Comparer les manifestations des 6, 26, 27 et 28 à du terrorisme, c'est... Non, on est allé tout loin, Pascal. Dans les savanes, dans les pays sahéliens là-bas, là, en face, c'est des gens qui ont la même chose que nos forces de l'ordre ont. Quel manifestant a sorti ce genre d'outils lors de ces manifestations pour qu'on veuille faire cette comparaison? Je ne pouvais pas quitter la salle parce que, par politesse, pour ma personne, je devais être tout sûr. Mais aujourd'hui, tout est sur Facebook. Ce n'est pas bon comme image. C'était très triste et peu élégant. Je vais rebondir par rapport à des confrères qui veulent s'essayer à la municipalité, que c'est de bon droit. Mais comme, par exemple, le juge sur lequel nous avons tiré, pas écrit, en nous demandant s'il est dans le faux et s'il a fait usurpation de nom, c'est de la même manière que si demain, nous sommes obligés, pour les besoins de la cause, de fouiller dans ces mairies dans lesquelles des confrères peuvent être des maires ou des conseils municipaux, on ne fera pas de détails ni de demi-mesures parce que un journaliste d'investigation ne peut pas approcher certaines autres structures. C'est incompatible. Qui le prend pour dit.
D'accord. Oui, Didier, vous, votre appréciation sur la sortie du gouvernement?
Je dirais le gouvernement est dans son rôle. Dans son rôle. Et ils ont dit tout ce qu'ils ont eu à dire. Ils ont expliqué tout ce qu'ils ont essayé d'expliquer. Maintenant, est-ce que c'est à l'opinion de nous dire si tout le monde est convaincu ou pas. Mais comme les uns les autres le disent, il faut que nous soyons honnêtes des fois avec nos autorités, qu'on leur dise un certain nombre de choses. Moi, personnellement, en tant que Togolais, pas en tant que journaliste, moi, j'étais pas à la conférence parce que j'étais pas au courant. J'ai pas été invité, donc j'étais pas à la conférence.
J'étais informé.
Oui, Jacques m'en a parlé à la dernière minute, mais Jacques n'est pas le gouvernement, c'est pas Jacques qui invite. Donc, j'ai pas pu faire le déplacement, mais j'ai suivi de loin et j'ai même fait un test sur cette conférence de presse-là. Ma foi, il manquait l'essentiel.
L'essentiel, c'était quoi?
Quand vous êtes dirigeant et vous êtes en face d'une partie du peuple qui semble être révoltée et qui porte un certain nombre de revendications, peu importe la manière dont ces revendications sont exprimées, peu importe la manière dont on manifeste ce mécontentement, après avoir mis en garde, après avoir brandi les menaces, après avoir tout ce qui a eu a été fait, il aurait, ma foi, ça c'est ma lecture des choses, quand même faire quelques annonces qui désamorceraient la situation. Quelques annonces qui, comme on dit, couperaient l'herbe sous le pied de ceux qu'on accuse de l'extérieur de manipuler en interne des revendications quand même acceptes, quand même valables et légitimes. Quelles ont été les annonces en dehors de « on va arrêter les gens », en dehors que le gouvernement ne laissera pas faire, la force restera la loi, voilà, en dehors des poursuites, en dehors de la force uniquement, quelles ont été les autres annonces qui aujourd'hui apaiseraient d'autres potentiels candidats manifestants de ne pas sortir? Qu'est-ce que le gouvernement promet aujourd'hui en dehors de la sécurité et de traiter des gens, de ceux qui manifestent de terroristes? Et ça peut-être, c'est quand même un peu exagéré aussi. Après tout ça, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Quelles sont les annonces aujourd'hui qui permettraient de désamorcer le sentiment là qui est dans beaucoup de Togolais de « on est délaissé, là, on est fatigué de la vie, on a faim » et tous les slogans que nous écoutons. Que hier, par exemple, j'ai lu une tribune d'un prêtre catholique. J'oublie un peu son nom, s'il permet quelques secondes, je peux trouver le nom.
Le temps est déjà...
Oui, mais si vous lisez ce que l'évêque là, c'est le père sans vie, c'est ça? Le père Séverin Gakpé, voilà. Et il paraît qu'il est de la diocèse de Lomé. Si vous lisez ce qu'il a dit, ça résume à peu près tous les sentiments de tous les Togolais aujourd'hui, sinon la majorité des Togolais aujourd'hui. Quelle réponse le gouvernement apporte? Voilà ce que moi, c'est en quoi moi je veux interpeller directement peut-être le président du conseil, si ses services sont à l'écoute, de dire qu'on propose aujourd'hui quelque chose qui sera contre ce que les gens vendent à nos frères en interne, des gens de l'extérieur qu'on a pu manipuler là, qui est quelque chose de palpable aujourd'hui, des annonces.
Merci.
Qui coupe l'air sous les pieds des.
Merci, Didier. Oui, Jacques.
Moi, ce que je voulais dire à propos au président du conseil, c'est de tout faire pour que les gens ne fabriquent pas trop d'enfants sur son dos. Parce que c'est ce que nous constatons actuellement. Les gens font trop d'enfants sur le dos du président du conseil. La preuve, quand vous écoutez un peu Amron dans son live, il a décrit ce qui s'est passé. Mais c'est inhumain ce qu'on l'a fait subir à ce 21e siècle, qu'on traite encore quelqu'un comme ça. Donc je crois que c'est pas bien. Donc que le président du conseil prenne ses responsabilités, que les gens n'aillent pas grossir quelque part et qu'on vienne lui donner les enfants.
D'accord, merci beaucoup Jacques. Oui, nous allons écouter maintenant nos auditeurs et je sais qu'ils s'impatientent pour rentrer en ligne, hein, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 115. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour.
C'est Nestor depuis Agoué.
Oui, Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, je voulais dire merci pour les analyses des journalistes sur le plateau. Et je voudrais intervenir par rapport au SOS du journaliste sportif. Et dire merci à Canal FM parce que je crois que c'est ce qu'il fallait faire face. Parce que face aux fausses informations, face aux menaces, surtout des journalistes, il faut signaler en premier lieu rapidement avant de chercher à fournir des explications. C'est ce qu'a fait le journaliste sportif et c'est très bien. Merci pour tout, Canal FM. Bye bye.
Merci Nestor pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, à la grâce de Dieu.
D'accord, votre nom c'est
Bozambo.
Ah, Bozambo.
Oui.
Depuis Azam.
Depuis CD.
Ah, d'accord, allez-y.
Ok. J'aimerais dire quelque chose. Sur ce que vous avez dit, c'est la vérité. Est-ce que le chef de l'État en a la possibilité d'écouter les radios rurales là? Tous les radios du Togo, est-ce que le chef de l'État a le temps d'écouter? Il n'a pas le droit d'écouter les ministres. Ils n'ont qu'à écouter nous, les peuples. C'est avec nous, les peuples, il peut conduire ce pays. S'il veut travailler avec des ministres, il aura tous des bâtons dans son rôle. Et je l'avais dit la fois passée, que les Togolais qui sont en étranger, ils souffrent. J'ai appris que l'ambassadeur de le consulat du Togo à Côte d'Ivoire, c'est un Libanais. Les Togolais qui sont à Côte d'Ivoire, ils souffrent de leur carte de consulat et carte numérique qu'ils ont fait. Donc, ils n'arrivent même pas à faire l'opération pour envoyer de l'argent ou bien recevoir de l'argent avec leur carte. Donc, j'ai dit ça, mais les autorités, aucun journaliste n'a pas fait les vérifications pour venir vous montrer que Bozambo a menti ou pas. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. La fois passée, Eboma a envoyé nos frères au Gabon pour aller travailler. Un frère de nous a fait l'accident. L'autre l'a communiqué. On dit que pourquoi il a appelé le chef du village du Badia. Il a communiqué. On l'a licencié. Il a fait une vidéo. Le président de Eboma, lui-même, il a vu la vidéo. Il est parti au Gabon pour rencontrer les victimes. Il dit que Inoka, ce qu'il a fait, ce n'est pas ça qu'on va licencier. Donc, il n'a qu'à revenir dans son pays pour travailler. Et jusqu'à présent, le monsieur, mon frère, est dans la maison. Personne ne dit rien. Donc, qui peut nous sauver dans ce pays? Hein?
D'accord. Merci beaucoup, Bozambo. Il y a beaucoup de personnes en ligne. Allô?
Oui, grand-père, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien,
c'est Benoît, ça va, oui.
Oui, grand-père, bonjour à vous tous. Bon début de semaine.
D'accord, merci, et pareil à vous.
Moi, ce qui m'étonne, c'est la lenteur des réactions du gouvernement de la, comment je vais dire, 4e République et 5e République. Vous dites, ils ont fait, il y a les, comment je vais dire ça, quand il faut être dirigeant d'un pays, il faut être, comment je dis, un génie ou bien quelqu'un d'intelligent. Et je n'ai pas dit que les autres ne sont pas intelligents. La lenteur de notre gouvernement et les propos. Le gouvernement est prêt. En ce temps que nous sommes là, ce n'est pas le temps des paroles. C'est le temps des actes. On a trois. Exact. Le gouvernement a pris, et le gouvernement a pris toutes les mesures. Le gouvernement, c'est quoi ça? Il faut que le chef du conseil table sur la table si vraiment il aime ce pays. Le pays, je ne sais pas comment ce pays de 56 km². Regardons la Mauritanie ou bien le Nigeria. Comment ils arrivent à diriger? Même je regardais la TV7 l'autre fois. C'est seulement à la TBT que le Togo avance. Hein. La TBT, on dit que le Togo est en recul en quoi? En GSM ou en communication.
D'accord. Merci beaucoup, Benoît. Allô? Bonjour.
Bonjour, c'est William depuis Niapé.
Oui, monsieur Yao.
Merci.
Oui, allez-y.
Je remercie tous les journalistes qui sont venus aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut parler au peuple et que nous tous, on va bien vous écouter. Et on aura le cœur apaisé. Les élections, nous, on a démarré les élections à partir d'aujourd'hui. Moi, j'invite tous les candidats d'aller aux élections. C'est ce que moi, je souhaite ça. Par rapport à ça, pour ce que tout ce que Ambron parle, bon, je pense que vous avez parlé d'Ambron, c'est à cause de que je parle, sinon je n'ai pas parlé d'Ambron, je coupe. Donc, si vous voulez, ce que vous parlez d'Ambron, son papa aussi était gendarme. Lui aussi, il a aussi manipulé le peuple aussi. Si on veut parler de ça, son père aussi est coupable de ça.
Monsieur Yao, nous n'avons pas parlé d'Ambron. Je pense que c'est plutôt une parenthèse que Jacques avait fait entre-temps. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Bon, je vous remercie et je salue tous les autres confrères qui sont au sujet avec vous.
Merci beaucoup, Sylvain.
Oui. Bon, moi, je suis d'accord. Quand votre confrère fait ses démarches, c'est comme ça que ça commence, et quand ça finit, on est là encore à parler. Il y a des gens qui pensent que, après eux, il n'y a pas d'autre, quoi. La vie est sacrée. Pourquoi on va s'apprendre à une vie de cette façon? Parce que la personne a pris position dans un débat. C'est pas humain, ça. Ça, il faut dénoncer avec la dernière rigueur. Mais quoi? La vie, les gens n'ont jamais donné la vie, n'ont jamais créé une vie. Et puis, ça prenne à des vies. Mais c'est fou, ça. Il faut que le journaliste aille loin. Merci.
Merci beaucoup.
Vous devez aussi l'accompagner.
Justement, je pense quand même que cette émission même d'ailleurs que nous faisons, où nous lui avons laissé l'opportunité de s'exprimer sur le sujet dans cette émission, c'est une forme d'accompagnement. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, j'ai compris qu'on commence bédé, mais on finit badabada. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Mauto. Oui, c'est Monsieur Mauto.
Je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi, vous savez.
Bon, ma question à tous les journalistes, est-ce que les élections ont encore un sens au Togo? Pourquoi cette question? Je vous invite, vous les journalistes, allez faire
l'exemple. Non, est-ce que vous nous avez suivi, Monsieur Mauto, tout au long de l'émission?
Laissez-moi, je vais en venir.
Oui, mais est-ce que vous nous avez suivi?
Bien sûr.
Mais si vous nous avez suivi, moi, je voudrais que vous vous prononciez aussi sur l'actualité. C'est-à-dire,
vous avez parlé de l'élection, j'ai tout compris. C'est oui. Ce que je voulais dire, j'ai assisté à une scène hier. Tous les villages qui se trouvent de l'autre côté du Mono, ils vont venir voter au Togo, les hommes municipaux. Les mairies ont étendu jusqu'au Bénin. Il y a tout ça hier, je ne vais pas vous dire. C'est pas, je vous pose la question, est-ce que les élections ont encore un sens au Togo? Si j'ai menti, vous les avez dit, allez faire l'invitation le jour de vote. Les gens vont venir du Bénin pour
voter. Mais monsieur, allô, monsieur Mauto,
oui.
Ce n'est pas les journalistes qui donnent sens aux élections.
C'est pas dans ce pays. Hein. C'est trop, quoi.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Mauto, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, c'est Ali.
Oui, Monsieur Ali.
Oui, c'est pour dire à celui que vous appelez aujourd'hui, Christophe, que c'est à lui d'apaiser le Togo. Quand il a dit que le Togo va avancer, c'est la part de UNI. Il est président de UNI. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la Défense. C'est lui le ministre de la Défense. Si la guerre va débuter au Togo, c'est lui qui va déclencher ça. Donc, tout rejet à lui. Tous ceux qui disent que c'est son aventure qui est mauvais là, non. Toute décision de paix et de joie des Togolais vient de lui. Je retiens ceci pour dire que lui et lui seul déclenche et bénéficie de tout ce qui se passe au Togo. À la fois, je lui propose de signer une armistice nationale, faire entrer les amis de la diaspora, sortir les gens qui sont en prison pour leur opinion politique, et une assise nationale pour apaiser le Togo. En dehors de ça, sincèrement, le Togo est en danger. Ceux qui parlent du fait que Amouron, son papa, est quoi, quel que soit le cas, ceux qui sont dans la bourgeoisie, aujourd'hui se retrouve aussi dans le problème. Donc, peu importe le milieu dans lequel celui qui a revendiqué la chose sort, c'est Dieu qui programme tout.
D'accord. Merci Ali pour votre intervention. Et Ali, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Dalmeida nous a écrit « Bonjour Pascal, le Togolais n'a absolument pas compris le sens des élections municipales. Rien de rien, les candidats sont tous derniers partis politiques sans présenter de projet et les maires sortants ne nous présentent pas le projet passé pour solliciter la continuité. Rien de rien. » La force de l'alternance, c'est Dalmeida qui nous écrit bien sûr cela. Et il y a beaucoup d'auditeurs quand même qui nous ont écrit sur notre numéro WhatsApp. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Jacques?
Oui, je voulais un peu répondre à Uyao. Il a dit que quand on parlait d'Amlorn, on a parlé de la violence. Parce que, vous savez, pour ceux qui ont suivi un peu son live, mais c'est des milliers de personnes qui ont suivi. Il a parlé de la torture. Il a dit comment on l'a frappé et tout ça. Et ça, pourquoi je disais qu'il est dragadin inhumain. Je disais qu'il faudrait que le PC prenne ses responsabilités pour que les gens n'aillent pas effectivement enceinter les femmes quelque part et venir lui donner les enfants. Vous voyez, parce que tout ce qui se passe là, c'est sur son dos. Donc, il faudrait que les responsabilités soient partagées par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est en ça que j'avais évoqué le monsieur Amron. C'est pas qu'on a fait une émission dédiée à Amron. Donc, il faudrait que UIAO comprenne que on n'est pas en train de faire l'apologie de Amron ici, mais c'est par rapport à la situation, ce qu'il a fait dans son live, ce qu'il a dit par rapport à la violence qu'il a subie. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on prend de, les organisations internationales, vous voyez, Pascal, que ce n'est pas une bonne presse pour nous.
Jacques, je reçois votre note de fin d'émission en même temps.
Non, je crois que une note. Non, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est pour demander l'apaisement au sein de notre pays. On en a besoin, parce que sans la paix, Pascal, sans la tranquillité, nous ne pourrons pas du tout avancer. Plaise à Dieu de nous accorder cette paix, cette grâce, que nous puissions effectivement vivre ensemble dans le pays.
D'accord, je comprends que vous n'avez pas de notes. Merci Jacques. Oui, Didier.
Vous savez, ce que moi j'ai à dire, c'est peut-être aux autorités. De tout faire pour rétablir la confiance et d'essayer souvent de manipuler bâtons et carottes. Bâtons et carottes. Ça, c'est la marque des parents pour qu'on ne finisse pas dans une crise d'autorité. Pour que des gens, des mots qui ont, s'ils sont sortis la dernière fois, où des parents disaient de leurs enfants qui sont des terroristes, enfin c'était trop exagéré. Il faut véritablement que notre pays essaye de rétablir la confiance entre tous les citoyens pour que Jacques le dise et que tout le monde le dit, nous puissions continuer de vivre dans la paix au Togo. Et ça, ça ne peut passer que par le bâton et la carotte. J'ai dit dans ce studio la dernière fois que nous n'allons pas tout régler par la force et par la loi non plus. Donc, s'il y a des mécanismes pour parler, pour discuter, pour prendre l'angle les uns avec les autres, moi j'encouragerai nos autorités à explorer ces pistes pour que justement le Togo continue de garder ce climat de paix-là qui est nécessaire aux bonnes activités que chacun mène chez lui. Donc voilà, bonne élection à tout le monde. Est-ce que les élections ont un sens ? Chacun pourra continuer à épiloguer là-dessus. Mais comme j'ai dit, pour le moment, il n'y a pas d'autre moyen de dévolution du pouvoir décidé par le test au Togo.
Merci Didier. Une note ?
Non.
D'accord. Oui, Gosson ?
Oui, juste pour rebondir par rapport à, au traitement qui a été réservé à Amron, je me demande, la mise en place du tribunal militaire, est-ce seulement pour le procès de Kadanga ou alors ça doit servir à d'autres choses aussi, parce que trop de témoignages ont fait état de ce que des forces de l'ordre et de sécurité ont exercé des violences inutiles et inouïes sur des citoyens. Je ne suis pas sûr que ce soit le parquet du tribunal qui va s'en charger, mais ça doit être...
Il y a des violences utiles.
Bref.
Merci beaucoup, Gosse.
Non, ben, oui. Ma note, c'est au président du tribunal de Sokoré. Je lui donne 2.
2 sur 10.
Oui, ce pourquoi on a écrit sur lui. 2 même, c'est parce que j'ai utilisé le BIC que je dis 2.
Là, vous parlez alors du président Kokoroko.
Oui. D'accord. Ce n'est pas bon pour un président de tribunal qui puisse être président de CELI. Non. Lisez le journal du jour. Vous en saurez davantage.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson Ketomania, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes du journal La Liberté. Merci à Didier Assoba d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal Togo Breaking News, .tg. Merci à Jacques Dakouti d'être passé dans cette émission, journaliste et analyste politique. Merci à vous de nous avoir suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Merci à vous qui nous avez appelé aussi pour vos diverses contributions. Je suis Pascal Osso. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.